Aujourd'hui, nous vous ferons découvrir un opéra, Le Consul de Giancarlo Menotti, présenté dans quelques jours au Théâtre Roger Barra à Herblay. Puis nous irons du côté de l'école d'électronique et d'informatique, l'ENCA, rencontrer le directeur du laboratoire ETIS. Il nous présentera ses robots. Enfin, comme chaque soir, nous vous livrerons les principales informations qui font l'actualité sociétale, culturelle et éducative, sans oublier un point sur la météo du département. Le cabinet médical du Val-de-France, installé à Villiers-le-Bel, vient de célébrer ses 4 ans d'existence. Cette maison de santé avait ouvert ses portes pour la première fois en 2010, ce qui avait permis d'ouvrir l'offre de soins sur la commune. En effet, la moitié des médecins avaient plus de 60 ans et à peine un remplacement sur deux avait été effectif. Le cabinet accueille aujourd'hui une vingtaine de professionnels de santé libéraux et prend en charge pas moins de 300 patients par jour. Le centre commercial des Trois-Fontaines à Cergy va se moderniser. Le groupe Amersun, propriétaire des lieux, va engager les démarches administratives pour redynamiser ce temple de la consommation. Ce projet s'inscrit également dans la grande restructuration du quartier Grand Centre initiée par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.
On va avoir des animations
RGB.
C'est une pièce que j'ai eu envie d'écrire.
Culture et loisirs.
Voilà, on est parti des chansons pour arriver sur une histoire.
Depuis 2012, les créations lyriques du théâtre Roger Barra à Herblay proposent un répertoire plus rare tout en favorisant l'émergence de jeunes interprètes. Cette année, le directeur musical Iñaki Encina Oyon propose « Le Consul », une œuvre de Giancarlo Menotti. Arnaud Biré a rencontré le directeur musical.
C'est un opéra qui a été créé à Philadelphia, mais c'était une commande de Broadway. Donc ils sont, après la création, tout de suite étalés à Broadway. C'est un opéra qui est resté plus de 8 mois à l'affiche, donc voilà, qui a connu un grand, gros succès.
Justement, cette histoire du consul, quelle est cette histoire? Ça se déroule au moment de l'après-guerre, je crois?
En fait, ce n'est pas forcément spécifié. Donc on évoque beaucoup de choses, mais sans trop délimiter ni le pays, ni l'année. C'est plutôt une ambiance qui est évoquée. Et puisque c'est créé en 1950, sans doute on pense à la guerre froide juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, l'effet qui a inspiré Menotti, c'est une expérience qu'il a vécue dans un aéroport où il avait une vieille femme italienne qui ne comprenait rien, qui essayait vraiment d'entrer, mais il paraît qu'elle n'avait pas les bons papiers. Et Menotti, étant italien, essayait de l'aider. Et c'est cette anecdote ou cet épisode qui l'a un peu lancé dans la recherche d'un libretto pour écrire un opéra.
Parce que ça traite aussi de sujets comme le poids de l'administration, enfin voilà, plein de choses aussi très concrètes.
Oui, mais en fait, on va voir plusieurs personnages dans un consulat qui cherchent à obtenir un visa, à obtenir ses papiers, pour pouvoir quitter le pays qui est dans un état policier, une dictature, et ils essaient de pouvoir partir ailleurs pour continuer leur vie. Mais chacun amène des différents problèmes. Soit c'est déjà des étrangers dans ces pays, soit de toute façon les consulats disent pourquoi on devrait vous aider, nous on est en paix avec votre pays. Et surtout on se confronte à chaque fois à une administration. Donc quoi que ça se passe, il faut remplir plein de papiers, il faut revenir plein de fois. Donc l'administration qui n'est pas prête à écouter les problèmes individuels de chacun, mais il y a toute une démarche administrative qui des fois... mène beaucoup trop de temps.
Et c'est bah, là où on revient à ce que vous disiez il y a quelques minutes, c'est que c'est aussi très intemporel. Voilà, on sait que ça a été écrit en 1950, mais effectivement, si ce n'est pas cité, ça peut être aussi très actuel.
Bah justement, moi-même, je suis étranger, je connais très bien l'administration française et combien il faut être persistant pour obtenir tous ces papiers et que tout soit en règle. Donc on a l'habitude, oui, de visiter des consulats, de visiter des administrations.
Alors, on va parler peut-être un petit peu de la distribution qui fait partie de cet opéra. Comment a été fait le choix? Est-ce que c'est des gens avec qui vous avez déjà collaboré? Est-ce qu'il y a eu des castings
On a convoqué des auditions, on a eu plus de 200 candidats dont on a sélectionné une centaine qu'on a entendu en 2-3 jours d'audition. Et on a eu plusieurs coups de cœur, notamment Valérie McCarthy qui joue le rôle de Magda, le rôle principal. Dès qu'on l'a entendu, on entendait Magda, on savait que c'était elle. Il y a certains chanteurs avec qui j'avais déjà travaillé, comme Ainhoa Thuathua qui joue justement le rôle de la femme étrangère parce qu'elle vient du Pays Basque, donc on s'est connus depuis très longtemps. Mais après, on a eu plein de belles surprises, comme Luis Pinjo qui fait le rôle d'Anna Gomez, une petite voix tout légère, tout pétillante. Et puis on avait eu des voix magnifiques. Moi j'adore la voix de Joël Fleury qui joue le rôle de la mère. Mais Joël est venu et l'auditionnait pour la secrétaire. secrétaire. Et pour la secrétaire, on a été très vite séduit par les physiques de Béatrice Dupuis. Mais moi, j'ai regretté ne pas pouvoir donner un rôle à Joël avec cette voix magnifique. On l'a proposé de revenir auditionner pour le rôle de la mère. Donc voilà, c'était des cas un peu particuliers, mais on est très content à la distribution qu'on a pu réunir. Très homogène, d'une grande qualité, mais où l'on voit vraiment des individualités chacun avec des timbres très très différents.
Je présume que vous travaillez déjà sur la production de l'année prochaine.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous en donner deux, trois mots? Parce que je crois que ça se fait également en collaboration avec Iñaki.
C'est ça. En fait, on a voulu encore surprendre le public. Donc, il y a un ouvrage un peu méconnu, Falstaff, mais non Falstaff de Verdi, mais Falstaff de Salieri. Donc, on connaît un peu Salieri par sa relation avec Mozart, les films qu'on a tous vus. Mais c'est un compositeur qui reste méconnu, notamment cet ouvrage. Et c'est une délice, c'est un opéra bouffa. Donc, voilà, un gros contraste encore avec le consul. C'est une thématique bien plus légère et musique classique, classique dans les vrais termes, donc de la période classique comme à Mozart. Et on a déjà fait des auditions, on a pratiquement déjà la distribution complète et on réfléchit déjà à comment rendre ces projets possibles, notamment avec une collaboration avec le Conseil d'Astrée d'Emmanuel Haïm. Donc il y aura une académie qui va se créer avec un partenariat avec Royaumont. Donc on est très content de tout ce qu'on est en train de mettre en place pour que ces projets Falstaff voient le jour.
Trois représentations du Consul seront données au Théâtre Roger Barra à Herblay ce dimanche à 16h, mardi à 20h et jeudi 5 juin également à 20h. Le Quadratin de Jouy organise jusqu'à mardi la fête de l'estampe. Les festivités se déroulent au château de Grouchy à Osny. Elles ont pour objectif de faire découvrir au grand public la gravure et l'estampe à travers des ateliers d'initiation, des démonstrations d'impression et des expositions. Ce week-end, la ville d'Auvers-sur-Oise met en lumière les talents des créateurs amateurs d'Auversois. Une exposition à découvrir sous le marché couvert ce samedi. De la peinture sur soie aux bijoux, des encadrements à la création de sacs ou encore de la transformation d'objets recyclés, les passants en auront plein les yeux.
RGB. Deux sites de l'université.
Il va y avoir un manque d'encadrement.
Information éducative.
Formation en 2 ans, donc niveau master.
Au cœur de l'école d'informatique, l'ENCA est installé un laboratoire un peu particulier. Létis s'active à créer des robots. Pour nous les présenter, nous avons interrogé le directeur Mathias Coy.
Perenson, qui est déjà allé plusieurs fois au musée du crime en lit et qui est spécialisé dans la reconnaissance d'œuvres d'art en interaction avec le public.
Alors, c'est-à-dire comment ça marche? Comment il fonctionne?
Le robot se déplace, il y a différentes œuvres d'art dans l'environnement, et les personnes montrent les œuvres qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, et le robot réagit en souriant ou en fronçant des sourcils en fonction de ce que leur disent les personnes.
Et comment vous est venue l'idée de créer un tel robot?
Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau. Et donc, on modélise des réseaux de neurones artificiels qu'on programme sur le robot. Et donc, on s'inspire du fonctionnement du cerveau humain ou de mammifères pour essayer de comprendre notre fonctionnement et reprogrammer ça sur des robots.
Et ça fait combien d'années qu'il existe, ce robot?
Alors, Berenson, ça fait un peu plus de 2 ans qu'il existe. Et au laboratoire, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ces modèles bio-inspirés.
Et vous avez découvert des choses avec tout ce travail? Je suppose qu'il y a des recherches.
Oui, on a découvert pas mal de choses sur la manière dont on navigue, c'est-à-dire la manière dont on bouge dans notre environnement, dont on planifie nos actions, la manière dont on interagit avec les autres personnes, notamment tout ce qui a trait avec le fonctionnement d'une structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est une structure cérébrale qui est impliquée dans la mémoire à court terme et dans les souvenirs de manière générale.
Et donc l'idée serait de créer un vrai cerveau artificiel dans les années à venir?
Si on y arrive, oui.
Vous êtes en train de travailler dessus?
On est en train de travailler dessus.
Il y a des pistes?
Il y a des pistes, oui, parce qu'on travaille beaucoup avec des neurobiologistes aussi, qui eux font des expériences sur les animaux et qui nous aident mieux à comprendre la manière dont fonctionne le cerveau et les neurones de manière individuelle ou par petits groupes.
Et ça, c'est ce que vous faites toute l'année à Létis avec les étudiants, ou c'est vraiment un travail à part?
Oui, c'est ce qu'on fait toute l'année à travers de nombreux projets de recherche nationaux, financés par l'ANR notamment, des projets européens, des projets en collaboration avec nos collègues du monde entier. Il y a aussi le robot Tino, qui est un robot hydraulique, c'est l'un des premiers robots hydrauliques en France, qui a été financé en partie par l'Île-de-France, par le CNRS, par l'Université de Cergy-Pontoise, l'NCA, et donc qui est arrivé il y a à peu près un mois au laboratoire.
Et quelle est sa particularité, celui-là?
Alors, sa particularité, c'est que c'est un robot qui est anthropomorphe, donc il a un torse, il a 2 bras, il a une tête qui est capable d'exprimer des émotions, et on peut interagir avec lui en souriant, en lui montrant des objets, et il va regarder, il va sourire, il va être pas content éventuellement, voilà. On c'est peut interagir de manière naturelle.
La génération numéro 2 de
Exactement, c'est l'évolution. Berendsen est un robot qui se déplace et qui réagit face aux œuvres d'art. Tino, ça va être un robot qui interagit de manière beaucoup plus naturelle, avec des bras, une tête qui bouge, pour regarder la manière dont les gens peuvent interagir avec un robot et s'en servir sans avoir à le programmer.
Mais ce n'est pas des robots qui rentrent en interaction, qui parlent avec le public?
Non, ils ne parlent pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer justement de comprendre tous les mécanismes non-verbaux. C'est la manière dont on peut interagir avec un robot et dont un robot peut interagir avec nous, sauf qu'on ait besoin de verbaliser ce qu'on est en train de faire ou lui donner des ordres. Donc le robot, il doit être amené à regarder de manière naturelle dans la direction du regard de la personne. Quand on lui montre quelque chose, il ne va pas regarder le bout du doigt, mais l'objet qu'on désigne, etc.
On célébrait la journée mondiale de l'autisme. Est-ce que ça participe aussi à vos recherches? Est-ce que ces robots peuvent aider?
Oui, on a eu pas mal de collaborations avec des médecins hospitaliers de la Pitié-Salpêtrière, notamment autour de l'autisme. Alors, en fait, les robots, ils peuvent indiquer en partie la manière dont les enfants interagissent avec les humains en proposant des modèles simplifiés des émotions. Mais les robots ne sont pas une manière de soigner l'autisme. C'est une manière d'entrer en communication avec des enfants éventuellement, de passer relais ensuite entre des robots et des personnes, mais ce n'est pas une manière de soigner. Non.
Mardi prochain, l'ETIS organise la journée de l'intelligence embarquée. La manifestation se tiendra sur le site Saint-Martin de l'Université de Cergy-Pontoise. Et l'Université de Cergy-Pontoise, justement, organise samedi sa 5e édition du Printemps de la danse. Une 60aine d'étudiants danseurs se produiront sur scène dans des conditions professionnelles. Cette année, les musiques de cinéma seront mises à l'honneur. Sur des airs de Dirty Dancing ou Star Wars, les danseurs se lanceront dans des chorégraphies de danse hip-hop, salsa ou encore indienne et contemporaine. Ce samedi, les élèves du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles commémoreront le centenaire de la Première Guerre mondiale. Tout au long de l'année, ils ont travaillé à l'élaboration d'expositions, de débats et de spectacles. En tout, 37 projets de classe seront dévoilés, issus des travaux personnels encadrés de première et des voyages à Verdun et en Slovénie. L'Éducation nationale vient de reconduire une convention de collaboration avec l'association École et Famille. Cette dernière, située à Saint-Ouen-l'Aumône, œuvre au profit des élèves en difficulté. Elle tend à favoriser les relations entre les équipes éducatives, les parents et les collégiens et lycéens du département. Une centaine de familles est suivie pour une période généralement de 2 ans. Le partenariat qui vient d'être reconduit met l'accent sur des établissements ciblés afin de lutter contre le décrochage scolaire.
Plusieurs clubs sportifs faisaient également ce genre d'activité.
La passion du football.
Cette médaille, on allait la chercher très très loin.
RGB, actualité sportive.
Enfilez vos baskets, enfourchez un vélo et vous voilà partis pour les foulées de l'Othil organisées samedi par le service des sports de Jules Moutier. 3 parcours sont proposés pour que petits et grands, sportifs ou non, puissent y participer ensemble. Les inscriptions et les informations sont sur le site de la ville. Et si Jules Moutier est trop loin de votre lieu d'habitation, pas d'inquiétude. Garges-lès-Gonesse s'organise au même moment la 3e édition de sa course pédestre des foules et des foulées. Là encore, familles comme sportifs aguerris peuvent y participer.